l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, notre chroniqueur, eh bien, c'est Thibaut de Corta qui va nous parler bande dessinée, comme à son habitude. Il nous parle de la nouvelle adaptation de 1984 par Xavier Coste et du décès d'Henriette Valium, c'est-à-dire de Patrick Henley. Voilà, donc on en parle dans un instant. En deuxième partie d'émission, passons à la musique. L'auteur, compositeur, interprète Étienne Drapeau sera avec nous pour son album Le Pont. Et on parlera également de son livre Faire le choix du bonheur. C'est pas ce qu'on veut tous ? Si, certainement. Donc pour l'instant, partons en musique avec David Goudreau, Battre mon cœur. Et on retrouve dans un instant Thibaut de Corta.
Aux années perdues, aux amis pendus, aux amours qui perdurent. Jamais connu de rupture, de belles fractures nettes, juste les déchirures à fret. Le cœur est un muscle qui s'atrophie à l'effort, à force il vire encore, mais il vire vieux. J'en ai lourd sur la conscience, mais j'ai le sommeil léger. On a tous des grands idéaux exposés dans les cadres pourris de nos vanités. On se trompe dans le blanc des yeux, on joue avec le feu, on se gargarise à la ciguë. Il s'en faudrait de peu qu'on en fasse trop, on se dit c'est juste une histoire de cul. Le mal est fait, mais la chair est faible. Un silencieux vissé sur nos quatre vérités. Quand je te baise en pensant faire l'amour avec elle, dis-moi, qui se fait fourrer? Je devrais monter sur combien de scènes, écrire encore combien de livres pour me sentir vivre, me donner le droit d'être, d'être à part entière, entier, assumé. Mes poèmes, mes envies de tout faire péter, me révolter contre chaque rêve révolu, brandir mes moignons d'absolu et gueuler que ma seule vérité. C'est un long silence. Écoute, écoute, mon cœur, battre. Écoute, écoute, mon cœur, battre. Ma tête, écoute, mon cœur, battre. Ma tête. Si je parle au jeu, c'est qu'on n'a rien à foutre. On excluant toujours la personne qui parle. L'amour se fait rare, comme l'écoute. Chaque fois que j'ai perdu la foi, j'ai retrouvé le doute. Ok, crédule, trop souvent j'ai cru. Mais suffit pas de planter des croix pour faire pousser des Jésus. Je traverse mes coups de blues, mes envies de coups de douze. J'ai aimé de faux frères et de vraies putes, j'encaisse. Je traîne mes regrets en caisse de douze. J'ai enrichi des pharmaciens qui portaient jamais de blues. Des trous de mémoire pour t'enterrer, t'oublier. Depuis, on se croise et on se ment, on se croit et on se manque. C'est la mise à mort, viens te mettre à mort. Chaque fois que tu cognes à ma porte, moi je cours à ma perte. Tout ce qui monte doit redescendre. Pourquoi briller de mille feux? Même les plus grands incendies vont finir en cendres. Écoute, écoute, mon cœur, écoute, écoute, mon cœur, battre, battre, battre. Écoute, mon cœur. Battre ma tête, ma tête. Écoute, écoute, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Écoute, mon cœur, battre, battre. Écoute, mon cœur, battre ma tête.
Et voilà, on vient d'entendre David Goudreau, Battre mon cœur. Et Thibaut, es-tu avec nous, Thibaut de Corta?
Absolument.
Bonjour, Thibaut.
C'est bon ce qu'on vient d'entendre.
C'est bon, hein?
Ouais, ouais.
C'est David Goudreau. Alors,
je ne connais pas, mais je vais découvrir. Hein.
Tu vas le découvrir, d'accord. Alors Thibaut, parlons de 1984. Non pas pour retourner dans cette année-là, mais pour parler d'une bande dessinée de Xavier Coste.
Oui, exactement. En fait, moi, je vais être honnête, je n'ai jamais lu 1984. Pour quelque raison que ce soit, ça m'a pas attiré jusqu'à maintenant, mais avec
t'as pas lu le livre, hein? Le livre non, qui a été écrit avant, voilà.
Voilà, par George Orwell.
Oui.
Mais avec ce récit graphique, pompeusement dit, j'aime mieux dire cette bande dessinée, mais bon, ça change la donne, parce que c'est tellement bien foutu que ça donne pas... Et je pense, contrairement à ce que j'ai lu sur Facebook, quelqu'un qui se plaignait pourquoi vous adaptez des romans alors que vous pourriez écrire des histoires originales. Mais je pense qu'en l'occurrence, Cette adaptation est fantastique et je suis sûr qu'elle est assez fidèle au livre. Parce qu'en fait, ce que je finis par comprendre, en 1984, bon, c'est une société autoritaire.
Oui. Ça rappelle rien du tout.
Non, non. Et qui, en fait, invente un ennemi et qui surtout veut effacer le passé ou en tout cas en gommer les imperfections pour amener une, ce qu'on appelle une nouvelle langue. Et moi, au-delà du texte là, qui m'a donné donc le goût de lire ce livre, ce que je vais faire très prochainement, pour confirmer ce que je sens, il y a l'aspect graphique. Et ça, alors là, c'est extraordinaire parce que, d'abord, c'est en bichromie. C'est-à-dire que tantôt c'est noir et blanc et rouge, tantôt c'est noir et jaune. Et
oui,
blanc.
J'ai vu qu'il avait mis des couleurs.
Ouais, mais c'est très. En fait, ça s'inspire un peu du style réaliste socialiste qui était assez en vogue dans les années quoi, 30, 40, peut-être 50, même voire 60. Mais en même temps, il y a un jet. Ce dessinateur-là, il mélange ça avec un. Je ne sais pas comment expliquer, il y a un jeu extraordinaire. C'est semi-réaliste.
Oui. C'est quand même quelque chose qui fait peur. Hein, moi, je n'ai pas lu l'histoire.
Ah, oui.
Mais, enfin, j'ai lu l'histoire comme ça, mais je n'ai pas lu le livre. Tu es dans un état totalitaire. On est en train de te surveiller. Ça ne me rappelle rien du tout. Réduction des libertés.
Oui.
Oui. C'est,
après, moi, je n'irai pas jusque-là, tu vois. Moi, je n'irai pas jusqu'à cette analogie-là, parce que je veux bien qu'aujourd'hui, on a quelques brimades. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec l'univers décrit dans 1984.
Non, ça c'est sûr, mais ça fait peur quand même. Et c'est écrit, il y a longtemps quand même. Hein. Ça a été écrit dans les années 40...
40-50, je crois.
40-50.
Oui, que je vérifie. Mais en fait, c'était une critique du communisme. Hein.
Oui.
C'était pas une critique de nos sociétés à nous. C'était quelqu'un qui... C'est à l'époque, je pense, anti-communiste. Et donc, c'est ça... Ce qui me fait penser qu'il y a un autre livre dont je vous parlerai bientôt, là, parce que c'est à peu près du même tonneau, sauf que ça, c'est une histoire vraie. Ça s'appelle Van Natt, de Matteo Mastrogostini et Paolo Castaldi. Et ça parle du peintre des Khmers rouges, mais ça, ce sera dans une autre chronique.
D'accord.
Ça, c'est assez horrible comme histoire, mais c'est sûr que c'est véridique cette fois-ci. Alors bon, toujours est-il que... Oui, pardon, vas-y.
Non, mais c'était juste, je voulais juste rajouter, parce que quand il parle d'un monde qui paraît assez étouffant, donc c'est pour ça que je me demande comment c'est traduit en BD, parce que c'est caméra, espion, voisin, enfin tout...
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça.
Je ne sais pas comment il le décrit.
Ben, il le décrit assez, c'est noir, c'est sûr. Hein. Mais en même temps, le style est assez dépouillé, ce qui fait que c'est sombre, mais en même temps, à un certain moment donné, on pourrait croire qu'il y a une lumière, mais malheureusement, la lumière s'estompe vers la
fin.
Très vite. Parce qu'il est enfermé dans un système duquel il ne peut pas sortir. Il y a une brève histoire d'amour qui est, je suis certain que ça ressemble au livre, mais finalement, ils se font attraper, ils se font vider le cerveau, il faut qu'ils renient leurs pensées profondes, parce que, alors, en sous-texte, c'est que, il y a un crime de pensée, je sais plus si c'est exactement ça le terme.
C'est ça, oui.
Mais, ouais.
Ils se trahissent l'un l'autre.
Ouais,
ils se rejettent l'un l'autre.
Pour sauver leur peau,
oui.
Parce qu'ils sont sous torture et tout ça. Mmh. Et ça, il y a une analogie avec l'autre histoire dont je vous parlerai ultérieurement, là, qui se passe au Cambodge à l'époque des Khmers rouges. C'est totalement horrible. Mais toujours est-il que c'est ça. Et ça parle du communisme aussi, parce que dans le communisme, tout le monde surveillait tout le monde.
Oui.
Il y avait ça aussi. C'est une critique, pas forcément objective. Hein. C'est vraiment subjectif qui parle. Mais c'est drôle parce que j'ai lu quelqu'un dernièrement qui disait « Ça serait bon qu'on commence à sortir de cette littérature paranoïaque du 20e siècle. »
Elle fait froid dans le dos.
Ben parce que le 20e siècle fait froid dans le dos, en fait. À part quelques percées de soleil, les années folles ou les 30 glorieuses ou encore les années 60. Les années 70, ça a commencé à descendre, en fait,
oui.
Pour nous amener où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est comme, par exemple, l'alerte écologique, c'est depuis le début des années 70, là, qu'on sait qu'on va vers un mur. Et là, on est quoi, 50 ans après, et on n'a pas bougé.
C'est vrai.
Alors, oui. Alors, mais peut-être que, justement, peut-être que ça prendrait, non pas un optimisme idiot, mais peut-être qu'il faudrait qu'on décroche de ces visions de cauchemar-là. Parce que, dans le fond, c'est très bien, les critiques, mais est-ce que ça nous amène vraiment quelque part? Est-ce qu'on en tire quelque chose véritablement pour dépasser ça, je ne suis pas certain.
Non, moi je serais partante de créer quelque chose
Mais il y
d'autre.
en a qui essayent, je crois. D'ailleurs, je parlais avec Maurice juste avant qu'on entre en onde, là. Il me parlait d'un auteur québécois, Christian Quesnel, si je ne me trompe pas, qui a écrit sur le lac Mégantic.
Oui.
Et ça, c'est un genre de catharsis aussi pour essayer de passer à autre chose après, parce que ces gens-là ont vécu quelque chose d'horrible. Et là, c'est bien, il y a un artiste de talent
Excellente.
qui rapporte le récit pour que ça reste un témoin.
Oui.
Et d'ailleurs, la bande dessinée québécoise étant, si je compare avec ce dont je viens de parler de Xavier Coste, donc on n'a rien envie dernièrement. Le niveau commence à être, je dirais. Non pas qu'il n'y avait pas des bons auteurs ou quoi avant, mais il n'y avait pas le même marché. Et là,
Oui.
on sent éventuellement qu'il y a une rencontre entre les auteurs et le public. Ce qui fait que ça avance très, très vite au Québec en bande dessinée. D'ailleurs, dans le prochain segment, je vous parlerai d'un auteur qui a disparu récemment.
Oui.
Il est un des piliers, en fait, même si ça peut avoir beaucoup de gens, c'est un des piliers de la bande dessinée québécoise.
Mais on va en parler tout de suite après la pause musicale.
Très
Mais
bien.
voilà, donc c'était très intéressant. Moi, ça m'a permis que tu veuilles parler de ça, ça m'a permis d'aller jeter un coup d'œil et de voir. En tout cas, je lirai pas le livre parce que déjà rien que le résumé me mettait des frissons dans les dents. Donc
Mais tu devrais, parce que moi c'est Maurice qui me l'a prêté. Hein. Moi, je vais le ramener la prochaine fois que je peux aller en studio. Et
Oui.
je souhaite qu'il te le prête pour que tu le lises. Parce que sans blague, au-delà du fait un peu sombre et noir, le dessin est tellement fantastique
Oui.
que tu
Ah
vas
mais
adorer, je
la bande dessinée, oui. Je parlais du livre de George Orwell que je ne lirai pas.
Ah oui, d'accord. Non,
Voilà.
ça va, je vais quand même m'y essayer.
Alors, tu nous en reparleras une prochaine fois. Ah, écoute,
Bien sûr.
on va faire une pause avec Daniel Boucher qui nous chante Je te cherche encore et après on revient
D'accord.
avec toi pour Henriette Valium.
D'heure en heure, de jour en jour, de semaine, en mois, en année, je te cherche encore. De belle en belle, j'ai fait le tour des dizaines, des centaines, des milliers. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, pas encore. Je t'ai pas encore trouvé, non, non, non. Est-ce que t'es caché en quelque part? Comment je fais pour te reconnaître? Quelle robe tu vas porter? Peut-être un beau foulard, peut-être les cheveux détachés. De la minute, je te vois paraître. Et tiens-toi prête à te faire lever. Comme un loup love sa louve, comme un bandit couve son trésor. De mal de cœur en mal tout court, de madame à masque en émeuse armée, je te cherche encore. L'œil ailleurs au corps toujours, amène la prochaine, me l'essayer. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, pas encore. Je t'ai pas encore trouvé, non, non, non. Est-ce que t'es caché en quelque part? Comment je fais pour te reconnaître? Quelle robe tu vas porter? Peut-être un beau foulard, peut-être les cheveux détachés. De la minute, je te vois apparaître. Tiens-toi prête à te faire lever. Comme un loup love sa louve, comme un bandit couvre son trésor. Peur en peur, ça devient lourd. De peine en peine, j'en deviens athée. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, pas encore. Je t'ai pas encore trouvé, non, non, non. Est-ce que t'es caché en quelque part? Dis-moi juste où, quand, comment. J'arrive tout de suite, je m'habille en blanc, en voyant en haut, capot, corbeau, dur à dire comment c'est beau. Ah ouais le rouge, ah ouais la blouse, on en fait deux, pis dix, pis douze.
vient donc pour parler maintenant de Patrick Henley.
Oui, oui.
Alors, c'est à toi.
Eh bien, alors voilà, écoute, tout ça, ça commence en 83, pour ma part en tout cas. Et je rencontre Patrick Henley et Normand Hamel, qui sont deux individus qui ont l'espoir, l'ambition de créer un duo graphique de niveau international sous le nom de Obu. Obu International, donc. Et en même temps, il y a un peintre qui s'appelle Jean-Pierre Gagnon qui décide de faire un événement qui s'appelle Entre la magie et la panique au Musée d'art contemporain de Montréal. Et nous, Normand, Patrick et moi-même, on vient de créer un genre de truc iconoclaste qui s'appelle Iceberg. Et ça, c'est en réaction au fait que Crow, à l'époque, allait lancer du moins un magazine de bande dessinée à part de Crow, là, qui allait s'appeler Titanic. Et nous, comme on était les mauvais garçons, on s'est dit, tiens, on va faire Iceberg. Oui. Et donc, on a été présenté notre petit machin imprimé, enfin imprimé, c'est un grand mot, photocopié. On s'est inclus dans l'exposition Entre la magie et la panique de Jean-Pierre Gagnon. Et là, il y avait peut-être quoi, une vingtaine d'artistes, peut-être plus, je ne me rappelle pas tellement, c'est quand même en 83, là. Et Patrick était déjà un peu versé dans la bande dessinée, mais ses projets étaient surtout graphiques, en fait, ainsi que Normand. Et puis, on a décidé d'un commun accord qu'on allait se donner des noms de filles plutôt que garder nos noms.
D'accord.
On allait se donner des pseudonymes. Et inversement pour les filles, comme par exemple Obom, Jen Obom-Sawin, mieux connu sous Obom, avait choisi Ringo Le Balaf. Moi, je m'appelais Violette Bristol, Normand Hamel s'appelait Charlotte Béton, et Patrick Henley, donc, elle a été Henriette Valium. Il l'a gardé, même que je crois qu'à un moment donné, il a trouvé ça lourd, mais bon, c'était trop tard, il était associé à ce nom-là. Et puis, bon, ben, nos chemins, en plus ou moins, parce que, alors voilà, Iceberg, ça a duré de 83 à 84, 5 numéros, dont le dernier est fait presque exclusivement par Patrick, et il y a entre autres une parodie de Tintin célèbre dans le milieu underground.
Ah oui, j'ai entendu parler de ça.
Que tout le monde connaît, ou presque. Et alors, ce qui est extraordinaire avec Patrick, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de compromis. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'a jamais eu de bourse, parce qu'il a fait des trucs un peu excessifs. Mais tu sais, on parlait tantôt du 20e siècle un peu horrible. Là. Mais lui, en fait, c'était un enfant du 20e siècle révolté. Et pourtant, un caractère assez... quelqu'un de gentil, quelqu'un d'aimable, pas du tout agressif, pas du tout violent. Il met tout ça dans son œuvre. Alors évidemment, je sais pas si tu as un peu regardé ce qu'il fait... sur le coup, c'est un peu rébarbatif pour le non-initié, si tu veux.
Oui, oui.
Mais en même temps, c'est un gars qui a eu le courage, moi je dirais, d'exprimer à fond ce qu'il avait exprimé. Lui, c'est un travail de laborantin, là. C'est un moine, c'est maniaque ce qu'il fait. Des livres, ça peut y prendre 5-6 ans à produire un livre, par exemple.
Tu te rends compte, c'est une recherche extraordinaire, hein?
Ouais, ben c'est ça, lui, en fait. Alors lui, c'est un peu le... Tu sais, tu te rappelles, on parlait de Richard Suicide il y a quelques temps.
C'est vrai.
Alors lui, c'est un peu un des pères spirituels de Richard Suicide, mais lui-même, il est un peu le fils spirituel, entre autres, pas que, mais de Robert Crumb.
D'accord. C'est,
Robert Crumb, qui est donc un des papes de l'underground américain, très connu aussi. Et Patrick, ce qui est triste, en fait, enfin triste, c'est comme ça, c'est le destin, il commençait à avoir une renommée, parce qu'il avait déjà une renommée international, mais au niveau underground, si tu veux.
Oui.
Il commençait, il y avait un galériste qui l'avait pris sous son aile, et il commençait là, à avoir une reconnaissance un peu plus importante, parce qu'en fait, il vivait dans un garage, hein, il roulait pas sur l'or du tout.
Ah oui,
il
d'accord.
Il vivait tout par vocation, si tu veux. Il publiait des livres à 100 exemplaires, et on s'entend qu'à 100 exemplaires, tu ne fais pas d'argent. Mais les gens qu'il connaissait l'encourageaient comme ils pouvaient, en fait. Et c'est quelqu'un qui a aussi un côté vidéaste et qui a un côté musicien. Ça, j'avoue, je connais moins ces deux aspects-là, mais je sais que ça existe. Et entre autres, un nom... Ah. En fait, il faut aller voir sur Wikipédia, vous cherchez Henriette Valium, et là, il y a tout le détail un peu de son parcours qui est intéressant quand même. Et alors, il est mort à l'âge de 62 ans, il y a 2 semaines.
Ah oui, c'est tout récent.
C'était tout à fait inattendu, parce qu'il a le même âge que moi.
Heureusement, t'es encore debout. Mais ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, de toute façon.
C'est exactement
ça. Pas vraiment d'âge pour repartir. Dis donc, Maurice me fait passer un petit mot. Il avait un groupe de rock qui s'appelait Valium et c'est dépressif.
Ben, c'est lui.
C'est ça, d'accord.
Ça, c'est Valium. Oui, alors c'est toujours sombre, Patrick. Parce que comme je te dis, c'est un gars qui a une révolte intérieure. Qui est tout à fait justifiable, là, je veux dire, justifié de quelque part, le droit d'être en colère contre l'humanité. Mais bon, évidemment, chacun a sa vision sur le sujet, bien sûr. Ouais.
Ben
oui. Empêche que, donc, ce qui n'empêche pas, du moins, qu'il a, c'est un gars avec un talent immense. Et les derniers trucs qu'il faisait, là, c'était complètement délirant, un travail colossal, et puis des idées originales quand même. Il avait commencé des portraits, mais il faut voir... Il a un site d'ailleurs, hein, henriettevalium.com ou .ca, je sais plus, je suis allé voir ce matin, là, je savais pas du tout qu'il avait un site. Et là, il y a des extraits de ce qu'il fait.
D'accord.
Et c'est bien quand même, c'est plus que bien en fait, c'est notable, hein. Ça va rester dans l'histoire.
Il va peut-être y avoir des rééditions de ce qu'il avait fait à coup, enfin à moindre...
Écoute, ça va dépendre de quelques facteurs, comme par exemple, est-ce que sa famille va vouloir, est-ce que, parce qu'il y a un éditeur qui est assez nouveau dans le milieu, qui s'appelle Moelle Graphique, et lui, c'est, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est un médecin qui est un doyen d'un hôpital, et lui, dans son, je me demande s'il n'est pas à la retraite d'ailleurs, mais dans ses temps libres, donc il fait de l'édition, de la micro-édition en fait, il fait des reliures, il lui arrive de faire des reliures à la main.
D'accord.
Ça va jusque-là, ouais. Et je crois que c'est un gars sans être fortuné. Je crois qu'il a les moyens donc d'endosser ce genre de travail. Et je pense que c'est un passionné aussi. Donc, c'est ça qui est au Québec qui est intéressant là, depuis quelques années. C'est parce que tu vois, quand on a commencé donc en 83-84, je dirais même jusqu'aux années 90, il y avait de la bande dessinée. Mais il n'y avait pas le support éditorial, il n'y avait pas le support d'éditeur.
Comme il y a
maintenant.
Oui.
Ah oui, maintenant, il y a quand même une diversité. Et puis, je te dis pas que tout le monde en vit, hein, mais tu vois, comme par exemple, Richard Suicide, qui a réalisé un dessin animé. Bon, ça, c'est quand même, pour moi, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ça avance. Mais il y avait déjà eu Obama. Je sais pas si tu connais Obama, mais on se pourrait te parler un jour. Qui est une illustratrice.
Mais tu sais bien que c'est toi qui m'apprends tout ce qui concerne tout ça.
Mais il y en a tellement à apprendre, juste avec le Québec. Moi, je t'avoue que je pioche autant international que Québec, mais on pourrait se consacrer uniquement au Québec et il y en a pas mal.
On le fera lors de la prochaine chronique. En tout cas, écoute, on arrive au bout de celle-ci. Mais en tout cas, je voulais te dire merci beaucoup, quoi, parce que tu nous expliques plein de choses. Et puis, effectivement, je porterai les yeux sur l'album de Xavier Coste et je regarderai, on en reparlera ensemble.
Ouais, ça vaut la peine.
Merci beaucoup à toi, au revoir et puis à tout bientôt. Et on se quitte en chanson avec Fouki qui nous chante Tadadam.
Super.
Alors, chose promise, chose due, Étienne Drapeau est avec nous. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Alors, prépare-toi parce que la prochaine demi-heure, elle est avec toi. Tu vas même gratter la guitare avec une chanson demandée. Je fais comme je veux, c'est mon émission.
Absolument.
Donc, on va parler de ton album Le Pont. Et puis, on va aussi parler de ton livre Faire le choix du bonheur. Et j'ai des choses à te demander sur les deux. Alors, un petit peu dans les textes, c'est toi qui écris toutes les paroles de toutes les chansons qu'il y a
toutes
sur cet
paroles,
album.
Toutes les musiques, effectivement.
D'accord. Donc, je vais pouvoir me lancer sur mon questionnement par rapport à des paroles que j'ai retenues sur une chanson spécifique. Voilà, tu vas pouvoir te préparer, tu vas pouvoir même commencer à régler ta guitare. Fais bien comme si tu étais chez toi, pas de problème en attendant. Voilà, donc nous, on se retrouve dans un instant. Ne quittez pas, Étienne Drapeau est avec nous. À tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Fara.
Je l'attendais depuis longtemps, sans trop y penser vraiment. L'amour aime se compliquer. J'aime mieux pas trop y en donner. Je l'attendais un peu jaloux de ceux qui ont l'air amoureux fous. Votre maison, vos beaux enfants, votre bonheur est un peu gossin. On aime tous voir les gens heureux, j'ose pas trop voir que leur vie est mieux. Pour trouver mieux, il faut aller à l'endroit où t'as pas été. Je t'ai trouvé, tu m'as trouvé. L'amour nous a trouvés. Je l'attendais, je vous l'avoue, à faire semblant que je m'en fous. Vaut mieux être seul qu'accompagné quand t'es à bout de le chercher. Pour le trouver, il aura fallu que je sorte des sentiers battus. Pour trouver mieux, il faut aller. Pour trouver mieux, il faut aller à l'endroit où t'as pas été. Je t'ai trouvé, tu m'as trouvé. L'amour nous a trouvé. Je t'ai trouvé, tu m'as trouvé. L'amour nous a trouvé.
Alors Étienne Drapeau, pour trouver mieux. Étienne, bienvenue. Alors, je suis très contente de te recevoir, à nouveau, même s'il y a quelques années, on s'était vu rencontrer. Je voulais te parler de cet album Le Pont et de la chanson qui va avec et que je t'ai demandé de nous chanter tout à l'heure. Parce que quand je l'ai écouté, alors j'ai dû le noter parce que moi, il y a des phrases qui sont venues me chercher. C'est « À toujours craindre la marée haute, on va jamais au-devant des autres ». Ce qui se cachait dans nos silences, entre les guillemets de notre méfiance. Et je suis tombée en amour avec ce texte.
Ah, merci, c'est ça me touche beaucoup.
Parce que là, ça m'a fait penser que c'est tellement vrai, surtout dans, encore plus peut-être dans le climat qu'on vit aujourd'hui, mais ça a toujours été la crainte, la peur de l'autre, de quelqu'un qui est différent, des choses qui sont différentes. Et on ne va jamais assez au-devant de l'autre, peut-être qu'on aimerait le connaître, mais on reste dans son coin en ayant peur tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'a pas compris. Et ça m'agace tellement qu'entendre ces paroles-là dans cette chanson, ça m'a beaucoup touchée.
Wow, je trouve ça magnifique ce que tu dis parce que tu as tellement bien saisi l'essence de cette chanson-là. Très peu sont ceux qui la saisissent comme tu l'as comprise, vraiment pour ce qu'elle est, de devoir bâtir des ponts. Entre les gens, entre les... Moi, à la base, c'était entre les styles musicaux aussi, mais dans la société en général, comme tu l'as mentionné, on va pas au-devant des gens, on a peur quand on est dans la peur, quand on est dans l'incompréhension. Donc, cet album-là, au complet, le concept de l'album et de la chanson-titre était de l'idée de créer des ponts entre les gens de toutes sortes d'ethnies, de toutes sortes de pensées, de toutes sortes de styles musicaux.
Alors, ça tombe bien parce que aujourd'hui, on va dire que ce qui nous manque le plus, c'est le lien, quand même. Qu'on nous supprime le plus, c'est le lien. Donc, faire cette chanson qui est comme un pont, c'est vraiment bienvenu, quoi. Merci pour ça. Et puis, pour cette compréhension d'aller l'un vers l'autre, quoi. Puis de se parler parce que l'ignorance, elle vient... La peur, elle vient d'ignorance. Donc,
absolument.
À partir du moment où tu comprends, bah, t'ignores plus. Donc... Normalement, si tu ignores plus, tu n'as plus peur.
Peut-être que ça me vient, je te dirais, ça fait peut-être 7 ou 8 ans que je suis porte-parole de Sainte-Justine au cœur du monde.
Oui.
Et j'ai fait beaucoup d'humanitaire. J'ai été en Éthiopie, au Sénégal, au Maroc. Et bon, il y a des gens de toutes les ethnies, évidemment, de toutes les confessions, religions, spiritualité. Donc, j'ai appris à voir plus loin que tout simplement la couleur de la peau ou l'ethnie ou la religion et à vraiment... aller chercher qui est l'être humain derrière la façade. Et c'est ce qu'on,
oui.
Comme tu le mentionnes, c'est souvent ce qu'on n'arrive pas à faire. Hein, t'sais, même dans la dernière chanson, pour trouver mieux, il faut aller à l'endroit où tu n'as pas été. Il faut sortir de notre zone de confort. Il faut aller
tout
vers les
fait.
Autres. Et en temps de pandémie, je pense que ça prend encore plus son sens.
Ben oui, c'est ça. Parce que ça fait une ouverture. Parce que c'est... tu sais, tu as des moments, des personnes qui pensent que parce que certaines choses se font de telle façon dans le pays où ils habitent, ça doit se passer partout pareil. Or, c'est pas vrai. Chaque culture a son apport, chaque culture a sa richesse, et t'en sais quelque chose avec tout ce que t'as fait là-dessus, et ça ouvre l'esprit. Alors, on demande pas de partir, mais déjà, même si on me répondait à ça, oui, mais alors moi, j'ai pas d'argent pour voyager, très bien, mais regarde autour de toi, il y a plein de gens qui viennent d'endroits différents. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, et puis tu verras bien.
Et même ici à Montréal, qui est une ville tellement multiculturelle.
Ah oui, là, on peut faire le tour du monde.
Absolument, en quelques minutes.
En faisant juste le tour de la ville. Alors, cet album est réalisé par Claude Bégin.
Oui.
Donc, dans ce que j'ai lu, c'était association surprenante, pourquoi, comment. Alors, explique-moi la rencontre entre vous deux.
Ben, tu vois, l'idée principale derrière le pont était que moi, je trouvais que dans l'industrie musicale, on en parlait au niveau des gens, mais dans l'industrie musicale aussi, je trouve qu'on est tout le monde un petit peu séparé, on évolue chacun dans nos niches musicales un petit peu très différentes l'une de l'autre. Les gens du pop ou du ce qu'on peut dire du mainstream, le plus commercial, ne se mélangent pas beaucoup avec les gens de la gauche un peu plus intellectuels. Il y a peut-être de part et d'autre un peu de nez en l'air ou de snobisme un envers l'autre. On voit pas souvent les gens de différentes sphères musicales collaborer ensemble. Donc moi, j'étais tanné de ça après quelques années dans l'industrie, qu'on est tous un peu dans des petites cliques, puis que comme des petites compétitions, puis je me disais, on n'a pas besoin de ça. On est un microcosme au Québec, on est une petite industrie. Si on veut survivre, il faut travailler ensemble. Et dans les autres cultures, moi j'ai voyagé beaucoup dans la culture latine, Il y a beaucoup d'associations entre les chanteurs, entre les styles de tous les univers. Dans le hip-hop aussi, il y a beaucoup d'associations entre les chanteurs, ils s'entraident. Et je trouvais qu'au Québec, on faisait pas ça beaucoup. Donc moi, d'aller travailler avec Claude Bégin, c'était d'aller travailler avec un gars qui est dans À la claire ensemble, qui est un groupe hip-hop. Lui, oui. Il faisait un autre style complètement que le mien. Je me suis dit, ben la fusion des deux styles musicaux, de deux univers complètement différents, parce que Claude et moi, on est à l'opposé, si on le regarde. Mais ça donnait un
mais
bon...
peut-être plus proche en tant qu'humain.
Absolument, absolument. Et oui, en tant qu'humain, on s'est rejoint. Puis au niveau physique, si on nous regarde là, physiquement, deux photos, on comprend pas. On n'a rien à voir un avec l'autre.
Oui,
mais au niveau
sais.
Humain, on est deux gars de Québec. On est deux gars à peu près du même âge qui ont vécu les mêmes choses. On s'est entendu comme deux grands chums. Tu sais, fait qu'au-delà des genres, des looks et tout ça, c'est vraiment démontrer qu'on peut travailler avec des gens de toutes sortes de sphères.
Ben oui, parce que c'est un bel album. Alors, il faut dire aussi que tu as l'album physique. Il faut quand même que je le dise. Hein. Il y a une photo absolument magnifique. Quel beau boulot t'as fait là-dessus, parce que la photo de présentation de l'album est absolument superbe. On dirait un tableau.
Merci beaucoup. On a mis, je t'ai raconté hors oui. d'onde, qu'on a mis beaucoup d'efforts parce qu'on a fait la photo dans une espèce de parc perdu au fond de l'Outaouais. Il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour arriver à cet endroit-là où il y a un pont.
Ça vaut le coup de marcher.
Oui, certainement. il y a un pont, il y a des ruines, il y a une rivière. Et même mon look a été créé par Yves-Jean Lacasse en fonction du moment de l'année où on allait shooter. On voulait que les feuilles soient tombées un peu partout et qu'il y ait la couleur or. Et sur Internet, on peut regarder dans le calendrier. Il y a vraiment la couleur des feuilles. Il y a un site où on voit vraiment les couleurs des feuilles à chaque oui. endroit à travers le Québec selon la date. Et on a fait tout ça. Et même les vêtements, il y a du or. Là. Alors, tout ça était pensé pour que tout fonctionne ensemble, la couleur, le style, et puis je pense que ça donnait un beau résultat.
Alors, cet album, il est vendu où? On peut le trouver où?
Les gens peuvent l'acheter. Bon, il n'y a plus beaucoup de magasins où on peut acheter les albums, mais sur mon site internet, au etiennedrapeau.ca, oui. les gens peuvent commander une copie dédicacée que je leur envoie directement par la poste. Il y a toute ma boutique en ligne qui est là. Les gens peuvent acheter mes livres de partition, mon livre aussi que j'ai écrit
récemment. Oui, on va en parler dans un
absolument.
Instant.
Et même, je fais des spectacles web durant la pandémie. Il fallait se réinventer. Donc, moi, j'ai donné des spectacles web à toutes les semaines. Jusqu'au mois dernier, j'en donnais à tous les mercredis. J'appelais ça les mercredis musique d'Étienne. Maintenant, j'en fais deux par mois, là, deux mercredis musique par mois où les gens peuvent assister à mes spectacles sur le web.
Alors maintenant, j'ai envie de te dire, t'es prêt?
Absolument, je suis toujours
prêt. À me chanter le pont?
Absolument, ça va me faire plaisir. C'est une de mes chansons préférées de cet album-là, qui est la pièce titre de l'album.
En tout cas, belle écriture et merci pour ça.
Merci.
Toi d'un côté et moi de l'autre, je me suis demandé à qui la faute. On se connaît bien, mais pas tant que ça. Peut-être que tu sais ce que moi je sais pas. Toi sur le quai, moi pas de bateau. Ardent brasier, mais peur de l'eau. Je connais un pont, puis au milieu y'a un refrain juste pour nous deux. Tout au fond de nos deux solitudes, on rêve aux aurores boréales. Mais pris dans nos vieilles habitudes, on n'y voit même plus les étoiles. Viens de mon côté, j'irai du tien. On trouvera un pont en chemin. Paraît que le ciel est bien plus bleu quand on le regarde à quatre yeux. Toi d'un côté, moi qui redoute que traverser serait la déroute, à toujours craindre la marée haute. On va jamais au-devant des autres. Ce qui se cachait dans nos silences, entre les guillemets de nos méfiances. Si je traversais, tu me dirais quoi? Je saurais jamais si je le fais pas. Tout au fond de nos deux solitudes, on rêve aux aurores boréales. Mais pris dans nos vieilles habitudes, on n'y voit même
plus les étoiles viennent mon côté, j'irai du tien. On trouvera un pont en chemin. Paraît que le ciel est bien plus bleu quand on le regarde à quatre yeux. Tout au fond de nos deux solitudes, on rêve aux aurores boréales, mépris dans nos vieilles habitudes. On n'y voit même plus les étoiles. Viens de mon côté, j'irai du tien. On trouvera un pont en chemin. Paraît que le ciel est bien plus bleu quand on le regarde à quatre yeux. La 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 la. Paraît que le ciel est bien plus bleu quand on le regarde à quatre yeux.
Merci beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les paroles de cette chanson. D'ailleurs, tu as fait plein de belles paroles sur d'autres chansons. Voilà, mais c'est celle-ci qui m'avait touchée le plus, qui est venue me chercher. Après, c'est un choix. Hein. On ne peut pas tout écouter, mais on en écoutera une autre qui s'appelle « Sur mon île » avant que tu partes. Donc, on va parler de ton livre « Faire le choix du bonheur ».
Oui.
Alors, « Faire le choix du bonheur », bon, philosophie, ben, c'est positif. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est... Alors, c'est la même chose. J'ai aussi... tiquer sur un mot qui est venu me faire plaisir, c'est que tu dis que c'est axé sur la gratitude. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que l'on manque de gratitude par rapport à la vie, par rapport au fait d'être vivant, par le fait de pouvoir travailler, de sourire, de rencontrer du monde, de dire bonjour, de dire merci, de dire s'il te plaît. Waouh! Gratitude pour ça.
Absolument, mais je pense que toi puis moi, on s'entendrait bien. Hein? On partage sensiblement les mêmes valeurs. La gratitude est la base de tout pour moi dans la vie. La phrase que j'ai dite le plus souvent dans toute ma vie, c'est probablement « la vie est belle ». Pour moi, la vie est toujours belle, peu importe ce qui nous arrive. On fait le choix du bonheur, on choisit de voir la vie, les événements et les choses qui nous arrivent du bon côté. Parce qu'on peut toujours voir les choses de la façon qu'on le désire. Je pense qu'on choisit son propre bonheur à tous les jours. Moi, je dis le bonheur, c'est pas un état d'âme, c'est pas une émotion. C'est littéralement une philosophie, une façon de voir la vie, vivre la vie, de voir et de vivre la vie. C'est aussi une décision délibérée qu'on fait. On prend cette décision-là d'être heureux, de voir la vie du bon côté, de remercier la vie pour ce qu'elle nous offre, plutôt que de voir tout ce qu'il y a de négatif dans la vie. Mais ça prend un grand cheminement pour arriver à penser comme ça et à garder cet engagement-là envers soi-même, envers les autres, à tous les jours de sa vie. Parce que c'est pas donné, ça tombe pas du ciel d'être une personne heureuse.
Non, parce que je sais que c'est... je sais pour l'avoir entendu dire, parce que c'est un mot qui est trop facile à faire, voir la vie du... côté du verre à moitié plein plutôt que du côté à moitié vide. On ne sait pas toujours exactement ce que c'est. Mais c'est juste quand quelqu'un dit quelque chose qui vient nous toucher bien, eh bien, le lui renvoyer, ça lui appartient. Ne pas se sentir blessé, c'est la chose qui est difficile c'est à faire, difficile. Je vous rassure. Hein, et j'y arrive pas tous les jours. Mais en même temps, c'est le plus facile pour se débarrasser du poids de ce qui nous est lancé. On n'est pas là pour supporter la mauvaise humeur ou l'ingratitude des autres. C'est juste dire, tu n'es pas capable de faire preuve de gratitude, eh bien moi si. Merci d'être vivant.
Ce que tu viens de dire là, c'est un exemple que je donne dans un de mes livres où j'ai un de mes chapitres qui s'appelle « Fermer la porte au négatif », où je raconte une situation où justement des gens ont été mesquins ou méchants envers moi. Et moi, j'ai un écriteau à la porte de mon cerveau, de mon esprit qui dit « Interdiction de rentrer au négatif. » Donc, l'énergie négative qui vient des gens, moi, je la prends pas. S'il y a une personne négative, moi, je dis tout le temps, si tu veux m'enlever mon bonheur, ma bonne humeur, lève-toi de bonheur. Parce qu'il y a rien qui me dérange dans la vie. Puis ça prend, c'est un exercice, c'est un travail, ça prend des années pour en arriver là, à être capable de ne pas prendre cette énergie-là. Il y a une phrase, ça m'a fait penser à une phrase que j'ai écrite dans mon livre qui dit « Le bonheur, c'est pas le sourire que l'on expose quand tout est rose, c'est celui qu'on porte au fond du cœur dans la noirceur. » Fait qu'il faut arrêter de penser que le bonheur, c'est de vivre seulement dans le plaisir à tous les jours. On peut avoir une certaine joie de vivre, un certain bonheur, même dans les plus grands moments de tristesse. Puis ça, c'est dur à comprendre. Puis je l'ai appris avec le temps. Mais c'est quelque chose dont je parle dans mon livre qui semble être contradictoire. Mais je vous donne un exemple. Ma conjointe, moi, a eu des soucis de santé dans les deux dernières années. Et sur une base quotidienne, semaine après semaine. Mais ça aurait été facile de se décourager, autant pour elle que pour moi, puis autant pour les deux de se dire, mon Dieu, que la vie est difficile, pourquoi ça nous arrive et tout ça. On aurait été malade, on aurait été malheureux pendant deux ans.
Oui, bien sûr.
Alors nous, on a fait le choix du bonheur, on a décidé qu'on n'allait pas laisser la vie, la maladie nous dicter notre vie puis influencer notre bonheur, que malgré les épreuves, malgré que ça allait être difficile, on allait décider qu'on allait être heureux quand même. À tous les jours.
Voilà, c'est ça. C'est ça parce que ce que j'ai envie de dire, puis que tu dois certainement traduire dans ton livre, que je vais me faire un plaisir de lire, c'est qu'on n'est pas... Faut arrêter que notre bonheur soit dépendant de l'autre. Notre bonheur n'est pas dépendant de l'autre.
Puis y a des...
On l'amène, on vit avec l'autre, certes, mais on n'est pas dépendant de l'autre. Sinon... Sinon, c'est dramatique.
Et il y a beaucoup d'études aussi qui ont prouvé ce que tu dis, au sens où il y a de nombreuses études qui ont été faites qui démontrent que les choses qui nous arrivent au cours d'une journée, d'une semaine ou d'une période donnée ne joueraient au final que sur 10% seulement de notre bonheur, qu'il y aurait un minimum de facteurs inévitables pour tous et toutes duquel notre bonheur dépendrait, des facteurs économiques, sociaux et culturels, l'endroit où on vit au monde. Il ne faut pas vivre dans la pauvreté extrême dans un pays dévasté par la guerre. Oui. Mais qu'une fois qu'on a un minimum acceptable de confort, de sécurité, que nos besoins de base sont comblés, il semblerait qu'après ça, les choses qui nous arrivent dans la vie, selon de plusieurs études, et j'en parle dans mon livre, ça jouerait un rôle infime. J'ai même vu une étude où on avait étudié des gens qui avaient subi un grave traumatisme, qui avaient perdu l'usage d'un membre ou qui étaient paraplégiques, et des gens qui avaient gagné à la loterie.
Oui.
Et après deux ans, on avait étudié leur niveau de bonheur et leur niveau était redevenu sensiblement le même. Les gens qui étaient très heureux, peu importe qu'ils avaient gagné à la loterie ou perdu l'usage d'un membre, il était au même niveau de bonheur. Et les gens qui étaient malheureux avant d'avoir gagné la loterie, deux ans après, étaient encore malheureux. Donc, il semblerait que les choses qui nous arrivent n'influencent pas tant que ça notre bonheur, que c'est notre vision, notre façon de voir les choses qui influencent plus que le reste.
C'est la dépendance à l'extérieur.
Absolument.
Ce qu'on croit être notre dépendance à l'extérieur pour avoir besoin de bonheur. J'ai besoin de ma voiture, j'ai besoin de mon truc. Non, on peut faire des tas de choses et je trouve que... Alors, je vais peut-être un peu scandaliser certains, mais je trouve que le bonheur ou le bon côté de la pandémie, on ne va pas dire le bonheur, mais le bon côté de la pandémie, c'était ça, c'était d'amener une nouvelle créativité, de se refaire autrement. Les gens qui nous disent je veux revenir comme avant, non, on va créer quelque chose de nouveau ensemble.
On a eu cette... C'est ça. Puis moi, je te dirais, j'irai encore plus loin en disant on a eu cette chance-là, et là, je fais un petit guillemet, on a eu cette chance-là de vivre la pandémie qui nous a permis de remettre bien des choses en perspective. Tout d'un coup, on n'avait plus nos événements, nos galas, nos soirées, nos spectacles, nos sorties entre amis. Il fallait retrouver son bonheur avec soi-même.
Voilà,
et là, on s'est retrouvé face à soi-même, qu'on soit seul ou en couple, ou on s'est retrouvé seul dans la même maison avec notre famille, avec nos amis. Et là, c'est de voir en se regardant dans le miroir, est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que j'ai tout ce qui me rend heureux? Je pense que ça a été un reality check, comme on dit en anglais, pour bien des gens. Puis ça a remis bien des choses en perspective. Ça nous a remis les valeurs à la bonne place. Du moins, je l'espère. Et qu'on ne reviendra pas comme on était avant et que ça nous a amélioré.
Non, j'ai pas envie non plus. J'ai envie qu'on s'améliore.
Oui, absolument.
Mais écoute, on arrive à la dernière minute de l'émission. C'est toujours un plaisir de te recevoir, mais on va avoir le temps de dire au revoir. Avant d'entendre ta chanson, on va... du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tiens, ta chanson qui était sur mon île. Est-ce que tu as quelque chose, un programme, un projet, bientôt?
Je suis en spectacle une fois par mois à la Salle des Îlets à Montréal en résidence.
Voilà.
À la fin du mois, j'ai un spectacle qui est Pianoman, un spectacle où je suis seulement au piano. Et j'aurai des spectacles de Noël aussi qui s'en viennent à la Salle des Îlets en résidence.
Ne nous parle pas
aussi.
Déjà de Noël. On est à peine au mois de septembre, s'il te plaît. Stop.
Pas tout de suite. On n'en parle pas
tout de
suite.
Alors, on écoute sur mon île, Étienne Drapeau, puis on se retrouve pour dire au revoir.
Juste assez centrale. Je t'emmènerai aux îles de la Madeleine, à l'endroit où se noient les peines. Quand le plus beau des archipels connaîtra enfin la plus belle, on racontera sur toutes ses côtes ce grand amour qui est le nôtre. Viens, je t'emmène sur mon île. Nous autres, on a le bonheur facile. On vit au rythme des marées. Il n'est pas question de se presser. Nous, on n'a pas l'heure, on a le temps de voir les choses différemment. Ici, bien loin de la vie est belle sur mon île. On partira juste assez loin, au bout de l'île, au bout du chemin, celle d'Orléans. Question de se presser. Nous, on n'a pas l'heure, on a le temps de voir les choses différemment. Ici, bien loin de la grande ville, que la vie est belle sur mon île. La 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 la. Sur mon île.
J'en doute pas une seconde que la vie est belle sur ton île. D'ailleurs, quand tu veux, tu m'invites.
Avec plaisir.
Alors, Étienne, merci beaucoup, Étienne Drapeau, d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle ton album.
Oui, l'album Le Pont, mon huitième en carrière.
Ton huitième en carrière, c'est pas rien, hein, déjà le huitième, bravo. Tu sais ce que c'est dans les tarots, le 8, c'est la justice, donc t'es dans le bon moment. Non. Et puis ton livre, Faire le choix du bonheur, donc on peut trouver et ton album et ton livre.
Oh, etienne-drapeau.ca.
Voilà, donc c'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir. On remercie aussi Thibaut de Corta, parce que Thibaut de Corta, t'étais pas là pendant la première demi-heure. Le chroniqueur du jour nous parlait de bande dessinée. Et il trouve toujours des bandes dessinées très très spéciales et très qui ont plein de choses à dire. Il y a eu une époque de ma vie où je croyais que la bande dessinée, bah, c'était, tu vois, plus pour les enfants. Et il m'a bien redressé là-dessus. Et là, maintenant, je comprends tout ce qu'il peut y avoir dans une bande dessinée.
Ah,
et
ça.
J'arrive à en lire des nouvelles, et ce, grâce à lui. Donc, merci à toutes et tous. Merci à Maurice Bolduc pour les musiques. Et nous, bien, on se retrouve quand ? Ben, la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et tous. Bon week-end, Étienne.
Au revoir.
Au revoir.